Pour Elena aussi, ce serait la première école. Je tremblais. J'adorais ce lieu de perdition, mais l'idée qu'une créature comme elle puisse s'aventurer en un endroit aussi dangereux me terrifiait. Elle qui détestait les violences physiques. En tout cas, je me promettais de casser la figure à celui ou celle qui toucherait au moindre de ses cheveux. C'eût été une occasion de me faire bien voir d'elle. D'autant que je n'eusse certainement pas été à la hauteur de l'agresseur qui m'eût transformée en pâte à papier et m'eût ainsi rendue irrésistible aux yeux de la protégée. Ce ne fut pas nécessaire. Le miracle se produisait partout où Elena allait. Dès le jour de la rentrée, une bulle de paix, de douceur et de courtoisie se constitua autour de ma bien-aimée. Elle pouvait traverser les batailles les plus sanglantes. La bulle l'accompagnait pas à pas. C'était une réaction universelle, naturelle, instinctive. Personne ne porterait atteinte à une chose aussi belle et aussi supérieure. À 4 heures, elle retournait au ghetto, aussi propre et net qu'au matin. L'atmosphère insurrectionnelle de l'école ne semblait pas l'incommoder. Elle ne la remarquait pas. Du moins, affectait-elle de ne pas la remarquer. Pendant les récréations, elle arpentait la petite cour terreuse de son palan, l'air ailleurs, heureuse de sa solitude. Ce qui devait arriver, arriva. Cette solitude ne dura pas. Une beauté aussi hautaine que la sienne inspirait la distance respectueuse. Jamais je n'aurais pu imaginer qu'il existerait un individu assez téméraire pour oser l'approcher. Ainsi, cet amour me faisait connaître des souffrances variées, mais dont la jalousie demeurait exclue. Quelle ne fut pas ma stupeur de voir un matin, dans la cour, un garçon enjoué qui racontait 1000 choses à la petite Italienne. Et elle s'était arrêtée pour l'écouter. Et elle l'écoutait. Elle avait levé le visage vers celui du garçon, et ses yeux et sa bouche étaient ceux d'une personne qui écoute. Certes, elle n'avait pas l'air enthousiaste ou admiratif, mais elle écoutait vraiment. Elle avait daigné accorder de l'attention à quelqu'un. Sous mes yeux, ce garçon était en train d'exister pour elle. Et il exista, pendant au moins 10 minutes. Et comme il était dans sa classe, Dieu sait combien de temps il exista encore à mon insu. Infamie sans nom. Quelques précisions ontologiques s'imposent. Jusqu'à mes 14 ans, j'ai divisé l'humanité en 3 catégories. Les femmes, les petites filles et les ridicules. Toutes les autres différences me paraissaient anecdotiques. Riches ou pauvres, chinois ou brésiliens, les Allemands mis à part. Maîtres ou esclaves, beaux ou laids, adultes ou vieux. Ces distinctions-là étaient certes importantes, mais n'affectaient pas l'essence des individus. Les femmes étaient déjà indispensables. Elles préparaient à manger, elles habillaient les enfants. Elle leur apprenait à lasser leurs souliers, elle nettoyait, elle construisait des bébés avec leur ventre. Elle portait des vêtements intéressants. Les ridicules ne servaient à rien. Le matin, les grands ridicules partaient au bureau, qui était une école pour adultes, c'est-à-dire un endroit inutile. Le soir, ils voyaient leurs amis, activité peu honorable dont j'ai parlé plus haut. En fait, les ridicules adultes étaient restés très semblables aux ridicules enfants, à cette différence non négligeable qu'ils avaient perdu le trésor de l'enfance. Mais leur fonction ne changeait guère et leur physique non plus. En revanche, il y avait une immense différence entre les femmes et les petites filles. D'abord, elles n'étaient pas du même sexe. Un seul regard suffisait pour le comprendre. Et puis, leur rôle changeait énormément avec l'âge. Elles passaient de l'inutilité de l'enfance à l'utilité primordiale des femmes, tandis que les ridicules demeuraient inutiles toute leur vie. Les seuls ridicules adultes qui servaient à quelque chose étaient ceux qui imitaient les femmes, les cuisiniers, les vendeurs, les professeurs, les médecins et les ouvriers. Car ces métiers étaient d'abord féminins, surtout le dernier. Sur les innombrables affiches de propagande qui jalonnaient la cité des ventilateurs, les ouvriers ne manquaient jamais d'être des ouvrières joufflues et joyeuses. Elles réparaient des pylônes avec tant de bonheur qu'elles en avaient le teint rose. La campagne confirmait les vérités de la ville. Les panneaux ne montraient que des agricultrices enjouées et braves qui récoltaient des gerbes avec extase. Les ridicules adultes servaient surtout au métier de simulation. Ainsi, les soldats chinois qui entouraient le ghetto faisaient semblant d'être dangereux, mais ne tuaient personne. J'avais de la sympathie pour les ridicules, d'autant que je trouvais leur sort tragique. Ils naissaient ridicules. Ils naissaient avec entre les jambes cette chose grotesque dont ils étaient pathétiquement fiers, ce qui les rendait encore plus ridicules. Souvent, les ridicules enfants me montraient cet objet, ce qui avait pour effet immanquable de me faire rire aux larmes. Cette réaction les laissait perplexes. Un jour, je ne pus m'empêcher de dire à l'un d'entre eux avec une sincère gentillesse « Pauvre !»« Pourquoi ?» demanda-t-il éberlué. « Ça doit être désagréable. »« Non, » assura-t-il. « Mais si, la preuve quand on vous tape là !»« Oui, seulement c'est pratique. »« Ah ?» On fait pipi debout. Et alors? C'est mieux. Tu trouves? Écoute, pour pisser dans les yaourts des Allemands, il faut être un garçon. Cet argument me plongea dans une profonde réflexion. Je ne doutais pas qu'il existât une échappatoire, mais laquelle? Je devais la trouver quelque temps plus tard. L'élite de l'humanité étaient les petites filles. L'humanité existait pour qu'elles existent. Les femmes et les ridicules étaient des infirmes. Leur corps présentait des erreurs dont l'aspect ne pouvait inspirer autre chose que le rire. Seules les petites filles étaient parfaites. Rien ne saillait de leur corps, ni impendice grotesque, ni protubérance risible. Elles étaient conçues à merveille, profilées pour ne présenter aucune résistance à la vie. Elles n'avaient pas d'utilité matérielle, mais elles étaient plus nécessaires que n'importe qui. Car elles étaient la beauté de l'humanité, la vraie beauté, celle qui est pure aisance d'exister, celle où rien ne gêne, où le corps n'est que le bonheur des pieds à la tête. Il faut avoir été une petite fille pour savoir combien il peut être exquis d'avoir un corps. Que devrait être le corps? Un objet de pur plaisir et de pure liesse. Dès que le corps présente quelque chose de gênant, dès que le corps encombre, c'est fichu. Je m'aperçois à l'instant qu'à l'adjectif « lisse » ne correspond aucun substantif. Pas étonnant. Le vocabulaire du bonheur et du plaisir a toujours été le plus pauvre, et ce dans toutes les langues. Qu'il me soit permis de créer le mot « listé » pour donner une idée aux encombrés de toute nature de ce que peut être un corps heureux. Platon qualifie le corps d'écran, de prison. Je lui donne 100 fois raison. Sauf pour les petites filles. Si Platon avait été une petite fille un jour, il aurait su que le corps peut être exactement le contraire, l'outil de toutes les libertés, le tremplin des vertiges les plus délicieux, la marelle de l'âme, le saute-mouton des idées, écrin de virtuosité et de vitesse, seule fenêtre du pauvre cerveau. Mais Platon n'a jamais même évoqué les petites filles, quantité négligeable de la cité idéale. Bien sûr, toutes les petites filles ne sont pas jolies, mais même les laides petites filles font plaisir à voir. Et quand une petite fille est jolie, et quand une petite fille est belle, le plus grand poète d'Italie lui consacre toute son œuvre. Un immense logicien anglais perd la raison pour elle. Un écrivain russe fuit son pays pour donner son nom à un roman dangereux, etc. Car les petites filles rendent fous. Jusqu'à l'âge de 14 ans, j'aimais bien les femmes, j'aimais bien les ridicules. Mais je pensais qu'être amoureux d'autre chose que d'une petite fille n'avait aucun sens. Aussi, quand je vis Elena accorder de l'attention à un ridicule, je fus scandalisée. Je trouvais admissible qu'elle ne m'aimât pas, mais qu'elle me préférât à un ridicule dépasser les limites de l'absurdité. Était-elle donc aveugle? Elle avait pourtant un frère. Elle ne pouvait ignorer l'infirmité des garçons. Et elle ne pouvait pas tomber amoureuse d'un infirme. Aimer un infirme ne pouvait être qu'un acte de pitié. Et la pitié était étrangère à Elena. Je ne comprenais pas. L'aimait-elle vraiment? Impossible à savoir. Mais pour lui, elle daignait ne pas marcher d'un air absent. Elle daignait s'arrêter pour l'écouter. Jamais je ne l'avais vu témoigner tant d'égards envers quelqu'un. Ce phénomène se répéta à de nombreuses récréations. C'était intolérable. Qui diable était ce petit ridicule? Je ne le connaissais pas. J'enquêtais. Il s'agissait d'un Français de 6 ans qui habitait Waijiaoutalou. C'était déjà ça. S'il avait habité le même ghetto que nous, c'eût été le comble. Mais il fréquentait Elena à l'école, soit 10 heures par jour. C'était infernal. Il s'appelait Fabrice. Je n'avais jamais entendu ce prénom et je décrétais d'emblée qu'il n'y avait pas plus ridicule. Par un surcroît de ridicule, il avait de longs cheveux. C'était un ridicule extrêmement ridicule. Hélas, je semblais être la seule à le penser. Fabrice paraissait le meneur de la classe des petits. Ma bien-aimée avait choisi le pouvoir. J'avais honte pour elle. Par un mécanisme étrange, je ne l'en aimais que plus fort.